au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Michel Arnois.
En direct du studio Joliette-Nissan, on recevra tantôt Mathieu Bélanger, notre expert politique. Il y aura une entrevue également ou un groupe d'entrevues avec les maires et dignitaires qui ont lancé avec CFNJ la nouvelle station Horizon 102.5, dis-je bien. Entrevue avec Raymond Paquin, président du conseil d'administration de la société Patrimoine et Histoire Terrebonne. On aura bien sûr le commentaire de Pierre Paquette en fin d'émission. Et Isabelle Ducharme, la directrice générale de Sport Québec, viendra nous parler des villes candidates pour les Jeux du Québec. Mais c'est loin, c'est en 2029. Bonne émission, mesdames, messieurs. Alors voilà, écoutez, on vous l'a dit, une nouvelle station est créée et lancée, et on vous en parle tantôt. Mais d'abord, la dernière session parlementaire à Québec a pris fin dans la controverse avec l'adoption sous bâillon du projet de loi 97, qui, il faut le dire, somme toute, permet une forme de privatisation d'Hydro-Québec. Les derniers mois n'ont pas été de tout repos pour la coalition Avenir Québec et François Morin. Et François Morin, dis-je bien, en parle avec notre expert politique, Mathieu Bélanger.
Plusieurs difficultés à rendre les services, plusieurs manifestations concrètes de cela, comme l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, comme la décote du Crédit du Québec auprès d'une agence de crédit, mais quand même, ça fait mal, de S&P Global, avec des débâcles aussi au niveau de Lyon Électrique, donc tout le secteur... De Nordvolt, tout le secteur donc de la filière batterie. Présentement, on ne voit pas les succès qui étaient escomptés de la part de la CAQ. Évidemment, tout n'est pas de sa faute. Ce qui vient du sud de notre frontière, des États-Unis, ça heurte aussi, évidemment, l'économie canadienne et donc l'économie québécoise et a une grande place dans la préoccupation des gens. Mais néanmoins, on ne peut pas dire que cette session-ci, ça a été des succès et ça se manifeste dans les intentions de vote où la CAQ demeure plus loin. Et d'après les sites de projection, ben, puisque, avec la montée en fait du Parti québécois, on en parlera dans un instant, mais ça fait en sorte que, comme c'est beaucoup des vases communicants entre le Parti québécois et la CAQ, ben, si on se fait au site de projection, ça a tendance à se maintenir. Donc, on connaît tous les sites, toutes les bordées de sel qu'il faut garder, et non pas juste un grain de sel, de nuances. Mais ça pourrait vouloir dire que la CAQ se retrouverait avec très peu de députés, pratiquement rien de la carte électorale. Il reste encore du temps pour changer les choses. On l'a vu au niveau fédéral très récemment. Mais pour l'instant, ce sont des grandes difficultés.
Il faut aussi rappeler que des projets de loi pour le moins impopulaires qui ont été déposés par le gouvernement, notamment le projet de loi 89 qui limite le droit de grève et le dernier qui a été adopté sous bâillon dans la nuit de vendredi à samedi, le projet de loi 97 sur la réforme de l'énergie.
C'est les projets de loi qui sont impopulaires. On se rappellera aussi de l'instauration de Santé Québec qui soulève un degré de scepticisme chez la population à voir à quel point que ça va permettre effectivement de régler ou d'améliorer la situation du monde de la santé. Effectivement, sur l'énergie, sur le droit de grève, on n'est pas sûr quelle est la direction que la CAQ veut donner à sa gouvernance et à l'économie québécoise. Et tout ça, évidemment, met la table pour les prochaines élections dans un an et demi. C'est sur le bilan de tout cela que la CAQ sera jugée et éventuellement sur la vision qui devra être articulée pour la suite des choses, parce qu'une élection, c'est rare que ça se gagne sur un bilan. Ça se perd sur un bilan, mais ça se gagne sur les promesses d'avenir. Et donc là, il va falloir que la CAQ soit capable d'articuler quelque chose pour l'avenir, justement.
Quant au Parti libéral, l'opposition officielle, on peut quand même dire qu'elle a bien tiré son épingle du jeu, notamment dans le dossier Ça clique. Là, c'est grâce au Parti libéral que des choses ont été mises au jour.
Le Parti libéral réussit à tirer son épingle du jeu jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que, de par son statut de parti officiel, de l'opposition officielle en chambre, et donc de la taille de son caucus et du temps qu'il a notamment pour poser des questions après des questions dans les commissions parlementaires, il fait son travail d'opposition, fait effectivement ressortir certaines histoires comme ça à clic, réussit à relever les défauts du gouvernement caquiste, et c'est son travail comme opposition officielle. Par contre, et réussit aussi à se maintenir dans les intentions de vote. S'il y a des élections d'un matin, vraisemblablement que le Parti libéral demeurerait numéro 2. Par contre, là où le bas blesse, c'est que justement, le Parti libéral maintient ses intentions de vote, mais ne risque pas à faire des gains, pas des gains significatifs. Le désamour avec la majorité francophone québécoise demeure vrai. Ce qui aide le Parti libéral, c'est oui, un petit peu de gain, mais surtout justement la débâcle et la division du vote entre la CAQ et le Parti québécois, et donc ce qui permet au Parti libéral de se glisser un peu entre tout ça. Mais on sent qu'il y a peu d'écoute, et on le voit avec la course à la chefferie qui prend fin cette semaine, que peu d'intérêt finalement de la part de la population et même des observateurs politiques dans une large mesure sur cette course à la chefferie-là. Ça va être ça le défi de la personne qui va remporter la course à la chefferie samedi, d'être capable d'articuler aussi, je parlais d'articuler une vision pour la CAQ, c'est vrai pour le Parti libéral aussi, une vision d'avenir qui va être capable d'aller au-delà de la minorité anglophone et de la minorité allophone qui est la base d'appui du Parti libéral du Québec pour être capable de rejoindre donc la majorité francophone. C'est ce qui peut être déterminant pour le Parti libéral du Québec.
Que dire du Parti québécois qui a quand même réussi un gain, c'est-à-dire remporter l'élection partielle dans Terrebonne?
C'est un gain pour le Parti québécois, c'est aussi porteur d'espoir. Le Parti québécois est un peu dans la même situation que... disons que le Parti libéral, mais à l'inverse, c'est-à-dire que on a commencé la session parlementaire en position de force et on maintient que ça demeure fragile. On profite de la division du vote des autres formations politiques, mais on a juste un 33% à peu près là, d'appui en moyenne. Dans le contexte où est-ce qu'il y a plusieurs partis politiques suffisants pour peut-être former un gouvernement majoritaire. Par contre, le but du Parti québécois, en principe, et c'est certainement vrai sous Paul-Pierre Saint-Pierre Plamondon, n'est pas de former un gouvernement, c'est de faire l'indépendance du Québec et de gagner un référendum avec plus de 50% des appuis. Mais présentement, on n'est pas là. On est même loin de là. Et ça va être toute la difficulté. Plus on va s'approcher du jour des élections dans un an et demi, d'être capable d'articuler un discours qui va permettre de non seulement remporter les élections, mais remporter les élections tout en parlant beaucoup de souveraineté. Et la crainte, évidemment, c'est que les électeurs se sauvent du Parti québécois.
Et Québec solidaire, est-ce que je me trompe en disant qu'on peut parler de stagnation dans son cas?
On peut même parler de régression ici. On a perdu des intentions de vote un peu, mais quand on en a pas tant que ça, ça fait mal quand même. Et surtout... plusieurs des députés, qui sont pas si nombreux que ça non plus, mais plusieurs députés du Québec solidaire ne se représenteront pas aux prochaines élections. On tente de se retrouver un discours qui peut être porteur, notamment dans les derniers jours, là, en prenant position pour le droit des travailleurs pour se mettre en opposition directe avec le discours caquiste des derniers jours, plutôt hostile du point de vue du moins des syndicats, là, donc hostile envers les syndicats. Mais là aussi, on cherche, pour reprendre la formule que François Legault a déjà utilisée à son propre égard, on cherche une boussole politique. À un an et demi des élections, il reste du temps, mais ça commence à être serré. Par contre, la bonne nouvelle, s'il peut en avoir une, c'est que ce sera donc deux nouvelles personnes qui seront les co-porte-parole de Québec solidaire, Rouba Gazal, et un porte-parole masculin qui reste à déterminer. Est-ce que ça peut donner un petit souffle de fraîcheur, de renouveau à Québec solidaire? Mais pour l'instant, Québec solidaire est en grande difficulté.
Il est 16h16 minutes. De l'autre côté du bloc publicitaire, on parle de la nouvelle station sœur de CFNJ, Horizon 102.5.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte?
Bingo!
La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
L'ASF Lanaudière vous informe. Voici Caroline Séguin.
Depuis octobre 2023, trois changements à la loi sur la protection du consommateur offrent une protection anti-citron dans le domaine de la vente et de la location automobile. Le premier changement donne droit au propriétaire ou locataire à long terme d'une voiture dont les problèmes continuent après plusieurs essais de réparation sous garantie, de demander au tribunal de déclarer la voiture comme étant gravement défectueuse. Le deuxième changement interdit maintenant aux commerçants d'exiger des frais injustifiés à la fin d'un contrat de location, comme de facturer des frais parce qu'une pièce installée pendant l'entretien normal ne répond pas à leurs critères. Enfin, le troisième changement stipule qu'au moins 90 jours avant la fin d'un contrat de location à long terme, conclu après le 5 avril 2024, le commerçant doit offrir une inspection gratuite. Pour connaître les détails d'application de la loi et ses détails, visitez la section infolettre au acflanaudière.ca.
Pour plus d'informations sur l'Association coopérative d'économie familiale de Lanaudière, rendez-vous à acflanaudière.ca ou appelez au 450-756-1633.
Les rénovations sont terminées au Maxi Saint-Michel-des-Saints, situé au 110 rue Brassard. Découvrez l'expérience complète. C'est un rendez-vous pour de la fraîcheur, des offres exclusives et plein de bas prix.
Envie d'un bon lunch? Direction Casse-Croûte chez Ma Tante Roulotte à Sainte-Émilie. Juste à côté du camping Sainte-Émilie, c'est le spot pour un déjeuner le week-end. Pour dîner, pour souper, venez goûter au nouveau burger Ma Tante Roulotte. Fromage à raclette, confit d'oignon et bacon. Un vrai délice! Suivez-nous sur Facebook pour les spéciaux du vendredi. Fait maison, fait avec amour, fait par ma tante. Casse-croûte chez ma tante Roulotte à Sainte-Émilie. 1551 Saint-Joseph à Sainte-Émilie de l'Énergie.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Sainte-Béatrix, Saint-Ignace de Loyola, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Michel-des-Saints.
CFNJ, 99.1, 88.9.
Ici, la musique américaine est tellement taxée qu'on n'en joue pas.
La Naudière PM. Communication.
Une nouvelle station de radio a été lancée samedi en direct de la place Bourget, la station sœur de CFNJ, Horizon 102.5. C'est une station qui vise premier plan sur le Grand Joliette. Et lors du lancement, un préfet de la MRC Joliette et trois maires de la région sont venus témoigner de la pertinence d'une telle antenne pour le Grand Joliette. Donc voici consécutivement les entrevues avec Pierre-Luc Bellerose, préfet de la MRC et maire de Joliette, Suzanne Dauphin, mairesse de Notre-Dame-des-Prairies et Robert Bibeau de Saint-Charles, maire de Saint-Charles-Borromée.
Une nouvelle station de radio. Une station où? Une station au cœur du Grand Joliette. Ici Claude Fournel, je vous parle depuis la place Bourget, en plein air, l'esplanade de la place Bourget, au centre-ville de Joliette. Bonjour Nicolas Bellemare.
Bonjour Claude, on est au cœur de Joliette, c'est pour ça qu'on entendait un cœur battre depuis plus d'un mois.
Oui, tout à fait. Une nouvelle station nommée Horizon 102.5. Une station de radio dédiée à la promotion du Grand Joliette avant tout. Autant pour les résidents de Joliette ou les gens qui proviennent de l'extérieur, qui arrivent dans le Grand Joliette, qui veulent s'informer. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va manger à quel endroit? Qu'est-ce qu'on fait en famille? Tout ça, vous pourrez le savoir à l'intérieur de 15 minutes en écoutant Horizon 102.5.
À n'importe quelle heure du jour, en fait 24 heures sur 24.
Ou de la nuit même.
Ou de la nuit, voilà. Effectivement, parce qu'il y a une vie 24 heures sur 24 dans le Grand Joliette et Horizon 102.5 sera là pour en faire la promotion. Comme tu disais, Claude, aux résidents et aux visiteurs de notre belle et grande ville, finalement.
Exactement, et grande région, parce que qu'est-ce que la région du Grand Joliette? Ben, c'est évidemment Joliette, Saint-Charles-Borromée. On parle de Notre-Dame-des-Prairies, Sainte-Mélanie, Crabtree, Saint-Paul, également Saint-Thomas.
Mais t'oubliais Village-Saint-Pierre?
Village-Saint-Pierre, c'est bien trop vrai.
Faut pas les oublier.
Nos voisins. On a avec nous les dignitaires des municipalités environnantes. On va commencer, tiens, avec le maire de la ville de Joliette, Monsieur Pierre-Luc Bellerose, qui s'installe à l'instant.
Il n'est pas que maire de la ville de Joliette,
il est
parce
préfet,
qu'il est aussi le préfet de la MRC de Joliette.
Bonjour, Pierre-Luc Bellerose.
Bonjour, ça va bien?
Oui.
Oui.
inauguration d'une nouvelle radio, un nouvel outil de promotion pour le Grand Joliette.
Bien, tout à fait. C'est une offre complémentaire à ce qu'on a déjà sur le territoire avec l'Office du tourisme notamment. Donc, on est vraiment fiers. Je pense que c'est enthousiasmant d'avoir un nouvel outil, un nouveau média, justement, que ce soit au niveau des bonnes tables, des activités dans le Grand Joliette. On l'a dit tout à l'heure, pas seulement la ville de Joliette, mais que ce soit au niveau de Saint-Charles, on parle de la maison Antoine Lacombe, il y a le Jardin des Noix un peu plus loin. Donc, on a vraiment une belle offre là, touristique dans la région, dans la MRC. Donc, c'est un outil qui m'apparaît vraiment pertinent. Là.
Offre culturelle, offre également au niveau sportif, il faut en parler. Il y a la magnifique rivière L'Assomption qui traverse Joliette.
Tout à fait, c'est assez incroyable parce que souvent, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire dans le Grand Joliette? Mais on a vraiment une belle offre, c'est de la faire connaître davantage. Et puis, avec cette nouvelle station, ben, je pense que c'est une opportunité là, supplémentaire de faire connaître ce qui se passe là, dans notre coin de pays.
Est-ce que, j'imagine que la région de Joliette veut de plus en plus aussi développer son tourisme parce qu'il y a beaucoup d'offres pour les touristes dans la région.
Oui, ben je le disais, il y a une belle effervescence culturelle dans l'ensemble là, de la communauté. On a aussi on est réputé pour nos bonnes tables. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire connaître. Même à nos citoyens, hein, on peut être touriste dans notre propre ville, dans notre propre MRC.
Et découvrir des choses. Et moi, j'en découvre semaine après semaine des nouveaux trucs là, dans Joliette que je ne connaissais pas. Il y a des trucs qui se cachent et on va les découvrir en écoutant Horizon 102.5.
Et c'est pour ça qu'on est très enthousiaste là, face à l'arrivée de cette nouvelle station.
Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette et préfet de la MRC de Joliette. Merci.
Merci.
Madame Dauphin, bonjour.
Hey, bonjour à vous.
Qu'est-ce que ça signifie pour Notre-Dame-des-Prairies, un nouvel outil de communication comme celui qu'on inaugure aujourd'hui?
Bien, moi, je trouve que c'est très important parce qu'on travaille fort à faire connaître nos événements, nos infrastructures sportives ainsi que tout notre attrait culturel. Fait que pour nous, c'est un plus, cette nouvelle station.
Vous parlez de culture, c'est très important pour Notre-Dame-des-Prairies. La culture est très vivante, d'ailleurs, à Notre-Dame-des-Prairies.
Oui, avec le carrefour culturel, puis les fameuses résidences artistiques que l'on donne au-dessus de 25 par année. C'est vraiment un plus pour nos citoyens et pour les citoyens du Grand Joliette aussi.
Des artistes en résidence souvent chez vous?
Beaucoup. Hier, on avait des artistes reconnus. On a souvent des artistes comme Guillaume Lafont qui est venu faire une semaine de résidence pour préparer son spectacle. Là, présentement, il se produit à travers la province de Québec. On est vraiment bien heureux de tout ça. On est bien content de ça.
Bien heureux de vous compter parmi les municipalités donc qui seront servi par cette nouvelle antenne Horizon 102.5. Madame Suzanne Dauphin, mairesse de Notre-Dame-des-Prairies, merci beaucoup de votre visite au micro.
Merci. Bonne continuité dans votre projet.
C'est un plaisir. Saint-Charles-Borromée, c'est une municipalité, pour moi, où on mange vraiment bien. Il y a de très bonnes tables à Saint-Charles-Borromée, n'est-ce pas, Monsieur le maire?
Ah, il y a de très bonnes tables, mais il n'y a pas juste ça.
Non.
Parce qu'une fois qu'on a mangé, il faut faire quelque chose.
Oui!
Si on faisait juste manger, ça ne marcherait pas.
Parlez-moi de votre municipalité à Saint-Charles-Borromée.
Ben, c'est une belle ville. C'est une belle ville dans laquelle il fait bon vivre. Et comme on disait, on parlait de la maison Antoine Lacombe. Mais la maison Antoine Lacombe, il y a tout un projet justement pour développer l'aspect touristique encore plus parce que Saint-Charles a décidé d'investir avec le gouvernement du Québec quelque chose comme 1 million pour faire de l'animation le soir, de faire de l'animation illuminée, de sorte que la maison Antoine Lacombe va devenir vraiment un attrait touristique majeur.
On est en pleine rénovation présentement. Là.
La rénovation de la maison, elle est pratiquement terminée. Là, ce qu'on va commencer, c'est vraiment la rénovation des jardins dans lesquels on va mettre tout un système de luminosité qui va créer toutes sortes de effet pour augmenter justement l'attrait de venir faire un tour à la maison Antoine Lacombe. Mais vous parliez de Sentier tantôt, vous savez, Sentier du Parc Beaubrûlé aussi.
Oui.
C'est une très belle place et puis si vous voulez marcher 3 fois dans la même journée, vous pouvez aller à l'île Vaisseau, vous pouvez aller dans l'une des prairies, venir faire un tour à Beaubrûlé. C'est une forêt centenaire.
Mais si on fait ça dans la même journée, on va être brûlé à la fin.
Ouais. Non, mais c'est là qu'on arrête au restaurant après.
Ah oui, c'est ça. Et il faut mentionner que vous avez un des plus beau club de golf au Québec.
Ben oui, malheureusement, il s'appelle Club de Gaulle de Joliette. Il aurait pu s'appeler Club de Gaulle de Saint-Charles-Borromée, par exemple.
Monsieur Bibeau, on fait pas de politique à cette antenne.
Ben non, moi non plus, mais c'est plus facile de savoir où c'est quand on sait dans quelle ville c'est. Ben,
Monsieur Bibeau, moi, je voulais vous dire, il y a des magnifiques parcs hein, dans le Grand Joliette, mais mon favori, un des plus beaux parcs de la région même, se trouve chez vous, le fameux Parc Bosco. Ce parc-là est une fierté pour vous, là.
Ben, c'est une fierté pour nous, puis c'est une fierté, pour, je pense, pour toute la région, parce qu'il y a plein d'activités et d'animations, dont, entre autres, ça va venir bientôt, le Festival Mémoire et Racine, qui est un festival incontournable, qui a pris une ampleur pratique du point international, c'est un peu fort, mais au moins plus que...
Ah, ben, il y a des artistes internationaux qui se rendent au festival, et il faut mentionner cet été la présence d'Edith Butler.
Exactement, vous avez raison, M. Fournel, c'est très bien. Fait que c'est sûr que le Parc Bosco, il y a aussi dans un endroit où l'une des seules plages dans la MRC Joliette, mm-hmm. quand l'eau est excellente, il y a plein de monde qui viennent à la plage Maria Gorossi puis ils s'en servent beaucoup.
Il faut briser justement cette pensée des gens concernant la rivière l'Assomption. Longtemps, on a pensé que cette, et avec raison, que cette rivière était polluée, mais c'est plus le cas maintenant.
Ben, c'est-à-dire qu'elle l'est de moins en moins.
Oui.
Puis, effectivement, elle est surveillée journalièrement pour savoir, pour être certain que les gens, lorsqu'ils vont aller à la plage, qu'ils vont se baigner dans une eau naturelle, ils soient en sécurité. Puis, je pense que c'est le cas actuellement dans plus de 80% des jours. Et il y a toujours une surveillance qui fait en sorte que quand ces journées-là, on dit, allez pas à l'eau, c'est parce que là, surtout lorsqu'il y a des pluies diluviennes qui traînent des sédiments. Et c'est ça, Saint-Charles-Borromée, c'est un endroit dans la Naudière dans lequel je pense qu'on peut avoir beaucoup de plaisir, avoir des activités culturelles, sportives, beaucoup d'activités sportives aussi.
Oui,
dans
oui.
Vous savez que le plus grand terrain de volleyball de plage de la région de la Naudière, c'est à Saint-Charles-Borromée, au Parc Bois-Brûlé. Puis même aujourd'hui, si vous y allez, il doit y avoir pour au moins quelque chose comme 1000 personnes après-midi.
Il y a des gens de tous âges. C'est incroyable comment les gens s'amusent à ce parc-là. Effectivement. Vous parliez de la plage Maria Goretti, M. le maire, il y a aussi la plage Bosco. Elle n'est pas en reste, celle-là, non plus.
Ben moi, quand je parle de Maria Goretti, souvent, elle inclut Bosco, mais c'est vrai que...
C'est voisin.
C'est très, très voisin. C'est non seulement voisin, c'est que il y en a une que c'est les gens qui sont plus avertis parce qu'il y a un peu plus profond d'eau. Tandis que Maria Goretti, ben, il n'y a jamais plus qu'un mètre d'eau d'une part.
C'est plus familial.
C'est très familial. Mais vous pouvez me dire, vous, de plage, c'est comme vous avez dit, monsieur...
On va se remettre en forme.
Non, mais on peut venir, on peut amener son ballon avec une couple d'amis parce que c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert gratuitement à tout le monde, de toute la région, profitez-en.
Alors voilà, c'est lancé le 102.5 Horizon, Horizon 102.5. Vous allez faire un tour, vous allez voir, c'est intéressant. On s'en va, je vois du coin de l'œil le collègue François Morin qui se pointe, on s'en va vers les informations, restez là.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Alors, Métropolitaine-Est pour le pont Charles de Gaulle, elle a commencé à ralentir à la hauteur de l'avenue Réaume. Et ça va jusqu'à, tenez-vous bien, le boulevard Henri Bourassa. Par la suite, vous reprenez de la vitesse. Pont Charles de Gaulle, c'est au vert, c'est intéressant. Pont Le Gardeur, par la rue Sherbrooke, Notre-Dame, c'est vert, donc pas de problème de ce côté-là. Du côté de la 25 Nord, pour le pont de l'Île-Saint-Jean, vous allez commencer à ralentir à la sortie du pont Payan. Par la suite, un petit ralentissement au pont Sophie-Masson. 640 direction ouest, c'est amélioré, sérieusement, c'est presque au vert. Du côté est, vers Repentigny, également amélioration, mais c'est dépassé la montée du Mec, on commence à ralentir. C'est un peu plus jaune orange, je dirais, à l'approche de la jonction 40-640. Voilà pour ce bulletin de circulation.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Si vous devez changer ou avoir une prothèse partielle, assurez-vous d'avoir procédé à un examen nettoyage chez votre dentiste au cours de la dernière année. S'il y a des réparations à effectuer sur vos dents naturelles, assurez-vous également que celles-ci soient complétées avant la visite chez le denturologiste. De cette façon, des délais supplémentaires seront évités et nous nous assurons que les dents sollicitées seront saines.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Envie d'un bon lunch? Direction Casse-Croûte chez ma tante Roulotte à Sainte-Émilie. Juste à côté du camping Sainte-Émilie, c'est le spot pour un déjeuner le week-end. Pour dîner, pour souper, venez goûter au nouveau burger ma tante Roulotte. Fromage à raclette, confit d'oignon et bacon. Un vrai délice. Suivez-nous sur Facebook pour les spéciaux du vendredi. Fait maison, fait avec amour, fait par ma tante. Casse-croûte chez ma tante Roulotte à Sainte-Émilie. 1551 Saint-Joseph à Sainte-Émilie de l'Énergie.
Écoute en direct, actualité régionale, réécoute, concours et bien plus sur l'application CFNJ à télécharger sur Android et Apple.
Au Québec, nous savons garder la tête froide. Surtout quand Harvey's propose des laits frappés à seulement 3 $. Crémeux, onctueux et préparés à la main avec des produits laitiers 100% canadiens. Difficile de résister. Laits frappés, boissons glacées, seulement 3 $ pendant tout l'été chez Harvey's, votre bar à burger et plus.
Ce bulletin de nouvelles régionales vous est présenté par Alimentation au Croc, votre expert local en nutrition animale. Une équipe passionnée et à l'écoute des besoins de votre compagnon. Rendez-vous à Saint-Jean-de-Mata et Saint-Gabriel-de-Brandon.
François Morin, bon lundi.
Oui, bon début de semaine.
Ça va bien? Bon week-end?
À date, oui. Oh, ça, on contrôle ce qu'on peut, puis le reste, on fait avec.
Je me suis laissé dire que tu t'es baigné en fin de semaine.
Oui. Hein? Ça changeait de mal de place.
L'ouverture des piscines, toujours le fun.
On adore.
Oui. Les parents d'un jeune autiste crient à l'injustice.
Ah, ça, c'est un peu particulier comme histoire. C'est des résidents du coin de Saint-Calixte, Cynthia Roy et Marc Audet qui crient à l'injustice, effectivement. C'est que leur fils, Jérémy, 16 ans, est exclu de son transport régulier par autobus vers une école spécialisée de Montréal parce que les sons qu'il émet dérangent les chauffeurs.
Les sons?
Oui, parce que ce jeune homme-là, selon sa mère, eh ben, il a l'équivalent d'un QI, si on veut, ou d'un âge mental d'un enfant.
Très jeune, oui.
De 6 mois à 1 an. Okay. Et il exprime ses sentiments en émettant des sons. Il n'est pas en mesure de verbaliser. Il y a eu des premières menaces d'expulsion qui ont été formulées au printemps 2024.
Mais ça dérange le chauffeur d'autobus.
Les chauffeurs d'autobus.
Les chauffeurs.
Ouais, parce qu'il y a des chauffeurs qui se sont plaints. Et ça a soulevé évidemment une interrogation de la part du père quant aux critères d'embauche des 10 chauffeurs. Et là, depuis le 7 mai, il y a un chauffeur différent à peu près par jour qui va chercher le jeune homme dans une berline. Il se retrouve tout seul. Donc, il n'y a plus personne qui l'accompagne vraiment. Et du côté du centre de service scolaire des Samars, ben, on évalue l'option d'inscrire le jeune homme dans une école plus près de chez lui. Et là, les parents veulent pas parce qu'il s'est habitué, lui, oui. À Montréal avec des nouveaux amis. Il s'est intégré
là-bas.
Il
a créé des liens, là.
Oui, il a créé des liens. Puis là, bon, on craint évidemment, là, que ça le déracine et qu'il vive encore ça plus difficilement.
La police nous a à l'œil.
Oui, c'est les services de police de tout le Québec, de même que la Société de l'assurance automobile du Québec s'unissent. Et on veut sensibiliser tout le monde et surtout les conscientiser aux risques liés à la vitesse sur l'ensemble du réseau routier. Alors, jusqu'au 15 juin, dis-je bien, se tient ce qu'on appelle une opération nationale concertée. Alors, les policiers vont intervenir aussi en lien avec le respect des signaux émis par les signaleurs routiers. Et on va regarder si votre plaque est bien visible. Parce qu'il y a des plaques qui se détériorent un peu plus vite que d'autres. Et si votre plaque.
Ça, c'est la responsabilité du
propriétaire.
Oui, ouais,
j'ai déjà eu un avis en ce sens, je te le dirais.
Ça arrive surtout l'hiver, que c'est caché par la neige ou la gadoue.
Ou en fait, c'est parce qu'il y a des plaques aussi qui se détériorent tout simplement, l'usure du temps, puis on ne voit plus nécessairement.
Peinture d'école.
Oui, c'est ça. Alors, il faut quand même. Pour ce qui est de la vitesse, il y a quand même des études qui démontrent clairement que la diminution de la vitesse de 5 km/h permettrait de réduire annuellement jusqu'à 15 % le nombre de collisions.
Même pas rien. Coalition Avenir Québec, il y a 18 mois pour se refaire une virginité.
Oui, c'est que qu'est-ce qui va arriver dans 18 mois? Ben, c'est les élections provinciales, les élections générales au Québec, et la prochaine année devra en être une de réalisation pour la CAQ de François Legault, c'est ce qu'avancent plusieurs observateurs, et les investissements questionnables dans plusieurs dossiers, les déficits records, les problèmes qui ne se règlent pas en santé, en éducation, l'adoption de projets de loi impopulaires, notamment le 89 qui limite le droit de grève, ça fait mal à la CAQ, puis évidemment, il y a sa clique, puis bon, tous ces dossiers-là. Alors, on écoute notre analyste Mathieu Bélanger.
Et c'est sur le bilan de tout cela que la CAQ sera jugée, et éventuellement sur la vision qui devra être articulée pour la suite des choses, parce qu'une élection, c'est rare que ça se gagne sur un bilan. Ça se perd sur un bilan, mais ça se gagne sur les promesses d'avenir. Et donc là, il va falloir que la CAQ soit capable d'articuler quelque chose pour l'avenir, justement.
La tenue des Jeux du Québec engendre des retombées importantes.
C'est quand même une bonne nouvelle potentielle, soit pour Terrebonne ou Sorel-Tracy, parce que ces deux villes-là se préparent justement à...
Ils sont en compétition, en fait.
Ils sont en compétition en vue de présenter les Jeux, la finale des Jeux du Québec était 2029.
2029, donc c'est dans 4 ans, faut se prendre d'avance.
Ben, c'est comme les Jeux olympiques, sauf que ça coûte pas mal moins cher, évidemment. Alors, il y aura d'abord un dossier technique qui devrait être déposé d'ici septembre, puis va suivre la présentation des partenaires, surtout du budget attestant la viabilité du projet. Et les villes devront enfin soumettre un cahier de candidature finale en vue du choix de la ville au test qui sera rendu public en septembre 2026. Et déjà, la directrice générale de Sport Québec, Isabelle Ducharme, affirme que les retombées des Jeux du Québec sont indéniables.
Vraiment, on donne des retombées environ de 20 millions par événement. Et c'est le tremplin au niveau des athlètes qui vont aller aux Jeux du Canada, aux Jeux olympiques et... dans les grands jeux par la suite. C'est le premier événement multisport, bien souvent, que les athlètes vivent au sein de leur carrière sportive.
Et en terminant, CFNJ a maintenant une petite sœur.
Horizon 102.5, c'est la station sœur de CFNJ qui est officiellement en onde depuis samedi. Le lancement a eu lieu à la place Bourget à Joliette. Alors, la nouvelle station radiophonique qui fait la promotion des activités économiques, artistiques et culturelles, touristiques et événementielles, en plus de proposer des activités quotidiennes du Grand Joliette. Le maire de Joliette et préfet de la MRC, Pierre-Luc Bellerose, a assisté justement au lancement. On l'écoute.
Souvent, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire dans le Grand Joliette? Mais on a vraiment une belle offre, c'est de la faire connaître davantage. Et puis, avec cette nouvelle station, ben, je pense que c'est une opportunité là, supplémentaire de faire connaître ce qui se passe là, dans notre coin de pays. On est réputé pour nos bonnes tables, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire connaître. Même à nos citoyens, hein, on peut être touriste dans notre propre ville.
Voilà, ça complète, Michel, d'autres nouvelles à CFNJ.net.
Lanaudière PM. Culturel.
La Société Patrimoine et Histoire Terrebonne fête son 50e anniversaire et selon le président du conseil d'administration, Raymond Paquin, de nombreuses activités figurent dans la programmation de l'ONB, de l'OBNL, qui est en voie de renégocier une entente de partenariat avec la ville, comme il le confie à notre collègue Régent Turgeon.
Monsieur Paquin, 50 ans d'histoire pour la société, ben comment ça a débuté tout ça?
Bien, vous savez, ça a débuté tout simplement par un monsieur que vous connaissez, vous avez dû connaître, monsieur Aimé Despatie, qui a fondé la revue de Terrebonne, le courrier dans un premier temps, puis après ça la revue. Et monsieur Despatie, c'est un amateur d'histoire et de sa ville également. Ouais. Donc, il a regroupé des gens à l'origine, et là on parle d'une première rencontre en octobre 1975, puis il est venu expliquer ça ressemblait à quoi une société historique, que c'est que ça mangeait en hiver, voyez-vous. Et puis, il a regroupé des historiens, des professeurs d'histoire, dont Claude Blouin, dont vous m'avez parlé tantôt, que vous aviez déjà rencontré. Et puis, ça a commencé comme ça, tout simplement, tout lentement, il est allé chercher des lettres patentes, donc ça a formé une OSBL en bonne et due forme. Là, vrai. Et puis, ben là, tranquillement, pas vite, vous savez, on était dans les années 75, à Terrebonne, c'est toute l'île des Moulins qui se développe, là, vous savez, c'est un immense chantier qui s'est fait, donc Terrebonne s'est vraiment énormément développé. Moi, qui suis originaire d'ici, qui demeure dans le vieux Terrebonne, à l'époque, on n'appelait pas ça le vieux Terrebonne, on appelait ça le pas de la côte. Hein? Maintenant, on appelle ça le vieux Terrebonne parce que, justement, ça s'est développé, pas particulièrement grâce à la Société d'histoire, mais ça a concouru, la Société d'histoire a concouru à tout ça. Alors, ça vous donne une petite idée là, d'où on origine.
Puis la Société s'est donné une mission là, à l'époque.
Ben oui, c'était de faire connaître l'histoire de Terrebonne, ok, on appelait ça la Société d'histoire de la région de Terrebonne dans le temps. Là, elle a changé de nom plus récemment parce que maintenant on parle de patrimoine. Donc, on voulait faire connaître l'histoire, on voulait faire que les gens apprennent c'est quoi l'histoire de notre région, et puis faire aussi des activités là, tu sais, donc des conférences et tout ça. Fait que c'est comme ça que ça ça a commencé. Ça a commencé, évidemment, lentement, avec quelques bénévoles bien, bien présents. Et puis, ben, on a continué pendant longtemps. Puis, malheureusement, il y a eu un hiatus, un moment où la société a fermé complètement parce que les grands leaders étaient plus présents. Et ça a repris par la suite, depuis maintenant, depuis 15 ans peut-être, là. Okay. Puis là, ça a pris une autre tournure, si je peux dire, parce que maintenant, pour une première fois, on est capable d'avoir une directrice générale, tu sais, que vous avez, je pense, rencontré dans le cadre du 350e, tu sais, alors Cassandra Smith. Donc, on voit qu'on a développé maintenant... plus de talent aussi. Peut-être vous avez vu tantôt en arrivant à la Maison d'Histoire, ben on a nos auxiliaires qui sont présents tout l'été. Donc, ça, honnêtement, ça roule, ça roule.
La société a écrit sa propre petite histoire dans un sens. Et là, il faut fêter 50 ans. On a prévu des événements, là.
Ben oui, on a prévu des événements, mais à la lumière, à la hauteur de nos moyens, quand même, là. Il faut comprendre que les événements dans le cadre du 50e, ça fait partie de notre programmation. On participe au symposium de l'Association des écrivains, pas des écrivains, l'Association des artistes en art visuel de Terrebonne, l'AAVT, dans l'île des Moulins. Pour la première fois, on va avoir un kiosque, puis on va pouvoir se faire valoir et puis expliquer qu'est-ce qu'on fait, puis faire un tour d'horizon de l'histoire de Terrebonne.
On doit réaliser que la société remplit vraiment sa mission avec ces activités-là, mais il reste que des défis à relever au cours des prochaines années. Ça prend du personnel, ça prend des bénévoles, des bons historiens pour écrire l'histoire de Terrebonne, ils sont là.
Mais vous savez, on a la chance. Quand même, on est gâtés, mais je pense qu'on l'a mérité en d'autres termes. Mais vous êtes ici à la Maison d'Histoire. Il n'y a pas beaucoup de sociétés d'histoire qui ont une maison comme telle. Ça, on peut appeler ça notre siège social, dans lequel on peut avoir deux belles expositions. Tu sais, c'est quand même intéressant. C'est parce que on a une excellente collaboration de la part de la ville de Terrebonne, tu sais, de la part des politiciens, le maire, tout le conseil municipal, le cabinet et tout. Tu sais, donc, dans ce sens-là, on a développé un partenariat financier, si je peux dire, avec la ville de Terrebonne, qui nous a amené de l'eau au moulin financièrement, là, tu sais, et c'est ça qui nous aide. Puis là, on est en voie de le poursuivre ce partenariat-là pour encore 3 ans, on l'espère. Et puis, améliorer aussi les ressources financières qui nous sont allouées. Parce que vous comprenez qu'une société d'histoire comme la nôtre, c'est pas facile d'aller chercher des gros commanditaires, vous savez, parce que on n'a pas une visibilité comme, par exemple, la corporation du 350e avait il y a quelques années. Ça se compare pas. Alors, dans ce sens-là, on a vraiment besoin de la ville. Puis la ville, elle dit oui, on s'embarque avec vous. Puis je pense que, vous voyez, je vous disais tantôt, on a maintenant Cassandra Smith qui est notre directrice générale. Ben, on demande un peu plus cette fois-ci. Tu sais, on demande plus de ressources, si c'est possible, tranquillement, pas vite. Parce que ça des ressources. Vous avez dit tantôt, un historien, ça serait une bien bonne affaire si on pouvait avoir un historien au moins à temps partiel, là, tu sais. Mais on a toujours Claude Blouin qui est à côté puis qui nous donne un coup de main. On a des ressources qu'on va aller chercher ponctuellement, mais on aimerait bien avoir des ressources un peu plus permanentes, si je peux dire.
De l'autre côté des publicités, directement du studio Joliette-Nissan, on parle à Pierre Paquette. Restez là.
Au 99.1 88.9 CFNJ, c'est Lanaudière PM avec Michel Arnois.
CFNJ 99.1 88.9.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo! Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Édouard-de-Masquinongée, Quincaillerie Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule-Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, Dépanneur Beaussoir, à Saint-Paulin Boucherie 4 Saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père, Dépanneur Régional
et dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Mesdames et messieurs, bonjour. Les feux de forêt font rage au Québec, alors que les foyers d'incendie se multiplient, alimentés par de nouvelles éruptions volcaniques au nord de la Tuque. Un dragon aurait également été aperçu survolant la région en crachant du feu. Plus de détails à venir.
Ben non, ça se déclenche pas comme ça. Trop souvent, c'est la négligence humaine qui est à l'origine de feux de forêt. Feux de camp mal éteints, brûlage de rebuts, mégots de cigarettes. Évitons les feux évitables. Un message de la SOPFEU avec la participation financière du gouvernement du Québec.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier, proprio direct.
Envie d'un bon lunch? Direction Casse-Croûte chez Matantroulotte à Sainte-Émilie. Juste à côté du camping Sainte-Émilie, c'est le spot pour un déjeuner le week-end. Pour dîner, pour souper, venez goûter au nouveau burger Matantroulotte. Fromage à raclette, confit d'oignons et bacon. Un vrai délice. Suivez-nous sur Facebook pour les spéciaux du vendredi. Fait maison, fait avec amour, fait par ma tante. Casse-croûte chez ma tante Roulotte à Sainte-Émilie. 1551 Saint-Joseph à Sainte-Émilie-de-l'Énergie.
99.1-88.9 CFNJ. À CFNJ. Voici le commentaire de Pierre Paquette.
On le retrouve avec beaucoup de plaisir en ce lundi. Bonjour Pierre Paquette.
Bonjour, bonjour.
Écoutez, on va parler de dépenses militaires. Le Canada qui atteindra la cible de l'OTAN dès cette année, selon le premier ministre McCartney?
Oui, mais ça c'est à voir, parce que ça dépend aussi comment est-ce qu'on calcule les choses. Alors, c'est sûr qu'il y a un effort supplémentaire qui doit être fait, là, ne serait-ce que pour être capable de montrer à nos alliés européens qu'on est capable de se s'équiper sans avoir le parapluie américain. Mais encore une fois, 2%, là, ça va être vraiment le début, et puis ça m'étonnerait qu'on l'atteigne réellement cette année. C'est davantage par des artifices de calcul où on introduit des dépenses qui ne sont pas à proprement parler des dépenses militaires.
Mais il y a quand même des opérations comptables intéressantes en incluant, par exemple, les dépenses de la garde côtière.
Ben exactement, c'est exactement ce que je veux dire, c'est que la garde côtière, de toute façon, on aurait besoin. Alors, en l'incluant dans le 2%, c'est sûr que là, ça nous facilite la vie. Mais je pense que, de toute façon, le Canada va avoir un effort beaucoup plus important à faire au cours des prochaines années. Et si c'est pas atteint cette année, ça sera atteint dans les prochaines années. Et de toute façon, l'effort va augmenter au fil des années.
Penses-tu que c'est pour se donner bonne bouche à la veille du G7?
Ah, exactement. Moi, je pense que c'est vraiment de cet ordre-là. Faut aussi mentionner le fait que c'est un des litiges qu'on a avec les Américains, pas simplement au moment où Trump est au pouvoir. Là, historiquement, ça fait déjà plusieurs présidents qui se sont plaints du fait que le Canada n'investissait pas assez dans ses dépenses militaires. Et donc, je pense que c'est un rattrapage qui est nécessaire. Mais en même temps, moi, comme je le mentionnais, je pense que cette année, 2%, là, en incluant peut-être la garde côtière, mais c'est ça, il y aura un effort encore plus important à faire au fil des prochaines années. Et c'est quand même problématique, parce que l'argent qui va aux dépenses militaires n'ira pas à d'autres investissements au plan social, par exemple, ou d'infrastructures routières, d'appui aux provinces, en santé, en éducation. Alors, faut pas trop se réjouir de ça, mais on n'a pas le choix.
On n'a pas toujours vu l'ombre d'un budget, Pierre.
Ah, pas l'ombre d'un budget, ça sera probablement à l'automne. Mais on a, par exemple, des baisses d'impôts. Alors, moi, comme je le mentionnais, on devrait avoir un référendum à chaque fois qu'il y a des baisses d'impôts, parce que ces baisses d'impôts-là vont avoir des effets. On parle de plusieurs milliards dont le gouvernement fédéral va se priver au cours des prochaines années, puis c'est très dur une fois qu'on a baissé les impôts de réaugmenter. Alors c'est pour ça que quand M. Poilievre disait que ça prendrait un référendum pour toute augmentation d'impôts, moi je disais ça prend aussi un référendum pour toute baisse d'impôts, mais c'est pas le cas. M. Carney l'avait promis, puis ça va être dès le 1er juillet, il va y avoir cette baisse d'impôts là, qui est quand même pas pour chacun d'entre nous, ça sera pas quelque chose de des normes, là, parce qu'on parle du premier palier, on va passer de 15 à 14,5 mais à l'échelle de l'ensemble des contribuables, ça représente des montants très importants.
Autre sujet, Pierre, que je voulais parler avec toi et profiter de tes commentaires. Après Gabriel Nadeau-Dubois, c'est au tour de Christine Labrie qui a annoncé qu'elle ne sera pas candidate pour Québec solidaire aux prochaines élections. Députée de Sherbrooke qui en a fait l'annonce samedi matin sur Facebook et dans une lettre ouverte publiée dans le quotidien La Tribune. Selon toi, est-ce que c'est la fin pour le début de la fin pour QS?
Ça va être difficile. Ça va être très difficile parce que c'est deux gros morceaux, là, quand même. Christine Labrie avait été la chef, la co-porte-parole féminin par intérim jusqu'à temps que Rouba Gazal... Enfin, à ce moment-là, c'était plutôt Émilie Lessard-Terrien qui avait été nommée porte-parole. Mais c'est deux gros morceaux qui vont quitter et ça va faire très mal. D'ailleurs, quand on regarde Québec 125, les prédictions là actuellement, c'est autour de 4 à 6 sièges, dont un seul est assuré. Pour le reste, ça va être difficile. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour Québec solidaire. Et puis, ça montre un peu la difficulté de Québec solidaire d'être un parti politique à proprement parler. C'est plutôt un mouvement social qui s'est transformé en parti politique avec tous les faiblesses qui viennent avec. C'est-à-dire que le jeu parlementaire, ben, les gens l'acceptent plus ou moins bien à Québec solidaire comme étant un petit peu des compromissions au lieu d'être des compromis. Et donc, moi, je suis un peu inquiet pour Québec solidaire. Ça m'étonnerait que Rouba Gazal soit capable à elle tout seule. Bon, c'est sûr qu'on aura un co-porte-parole masculin connu plus tard, mais peu importe qui ce sera, il n'y aura pas l'envergure de Gabriel Nadeau-Dubois ou encore de Christine Labrie.
Oui, faut pas l'oublier dans l'histoire de QS. Mais ça serait triste, par exemple, de voir disparaître un parti politique. Là. Je dis pas qu'on.
Je pense pas qu'il va disparaître. C'est un peu comme le NPD, c'est-à-dire c'est un parti qui sera pas jamais appelé à prendre le pouvoir. C'est un peu comme la conscience de l'Assemblée nationale. Ou la conscience comme l'est le NPD pour la Chambre des communes. Donc, il y aura toujours une présence, je pense, d'un parti de gauche comme Québec solidaire. Je pense que Québec solidaire va avoir encore quelques belles années devant eux, mais ça sera jamais un parti qui va prendre le pouvoir parce qu'ils sont pas capables de mettre en place les éléments qui sont nécessaires pour un parti politique. En termes de politique partisane pour prendre le pouvoir. Alors, eux, c'est ça leur problème. Ils sont un peu déchirés entre un mouvement social et un parti politique. Gabriel Nadeau-Dubois avait voulu clarifier les choses en disant, bon, on est un parti qui peut prendre le pouvoir, qui veut prendre le pouvoir, et malheureusement, il s'est fait contester par plusieurs militants, ce qui l'a amené à quitter non seulement son poste de co-porte-parole masculin, mais aussi, il a annoncé lui aussi qu'il ne se présentait pas à la prochaine élection. Donc, c'est deux grosses pertes pour Québec solidaire. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour pouvoir reprendre un peu d'initiative, parce que pour le moment, ils sont un peu sur la voie de garage.
Merci beaucoup, Pierre Paquette. On se reparle mercredi. Merci.
À mercredi. Bye.
Lanaudière PM, sport.
On vous en a parlé vendredi. Terrebonne et Sorel-Tracy sont candidats en vue de la présentation de la 53e finale des Jeux du Québec à l'été 2029. Le choix de la ville hôtesse aura lieu en septembre 2026 et François Morin discute avec la directrice générale de Sport Québec qui chapeaute tout ça, Isabelle Ducharme.
Madame Duchamp, donc, deux candidatures en liste, en fait, deux villes en liste pour l'obtention des Jeux du Québec été 2029. On parle de Sorel-Tracy et Terrebonne. Est-ce qu'il y a eu d'autres candidatures ou ce sont les deux seules?
Ce sont les deux seules que nous avons pour cette année.
Ben, je veux pas être méchant, mais c'est pas l'enthousiasme.
En fait, les villes, tu sais, ils se connaissent, les villes, ils savent qui va postuler. Puis c'est quand même une grande course et c'est des grandes dépenses. Et puis, c'est à peu près le nombre de candidatures qu'on a chaque année, actuellement.
Et là, ces deux municipalités-là, Sorel-Tracy et Terrebonne, sont évidemment le trop tôt pour qualifier leur candidature. Il y a encore des étapes là, avant le choix final.
Il y a trois étapes avant le choix final. C'est qu'il y a pratiquement dans un an et demi que la sélection finale va se faire. Et puis, ce sera à la fin de la dernière étape qu'on va savoir qui sera choisi entre les deux villes.
Donc, une première étape qui s'en vient en septembre, c'est le dépôt là, du dossier technique.
Exactement. En fait, c'est l'analyse de l'ensemble des plateaux sportifs et des plateaux pour les services aux participants qui seront analysés. Donc, à partir de là, les gens vont pouvoir changer des choses après pour la dernière étape pour dire quel plateau qu'ils veulent vraiment avoir les jeux dessus. Et puis, à ce moment-là, ils savent que s'ils peuvent continuer ou pas dans la course.
Il y a quand même une étape importante aussi à franchir entre le choix final et maintenant, c'est que personne ne veut évidemment se ramasser avec un éléphant blanc, c'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen de financer ça, là.
Oui, exactement. C'est ce qui est important. En fait, les Jeux du Québec, c'est des budgets de 8 millions. Donc, effectivement, il y a beaucoup de financement gouvernemental, il y a des financements de notre côté, mais il y a à peu près un 2,5 millions là, à trouver dans le milieu. Là, c'est essentiel de faire toute la démarche de recherche de fonds très tôt dans la candidature.
Et si je ne m'abuse, les municipalités doivent quand même aussi investir passablement au niveau des infrastructures, quoique de plus en plus les municipalités sont dotées, mais il faut quand même tout mettre ça à jour, là.
Oui, effectivement. Et puis les municipalités reçoivent une subvention de 6 millions du gouvernement du Québec au niveau des infrastructures. C'est un bon départ pour pouvoir mettre à jour des infrastructures au sein de la municipalité.
Les Jeux du Québec, on le dit, là, c'est la 63e finale des Jeux d'été. Si ça perdure dans le temps, c'est parce que ça fonctionne, il y a des retombées, puis ça fait évidemment là grandir, connaître les athlètes.
Oui, effectivement. Actuellement, on donne des retombées environ de 20 millions par événement. Et c'est le tremplin au niveau des athlètes qui vont aller aux Jeux du Canada, aux Jeux olympiques et dans les grands Jeux par la suite. C'est le premier événement multisport, bien souvent, que les athlètes vivent au sein de leur carrière sportive.
Et la beauté, quand les Jeux du Québec sont terminés, les infrastructures demeurent et ça demeure aussi à la disposition de la population générale, autant que faire se peut.
Ah, c'est essentiel pour nous. Pour nous, il faut que l'infrastructure puisse servir à la population par la suite. Notre objectif, c'est faire bouger la population. Donc, c'est essentiel que l'infrastructure serve à la population par la suite.
Donc, le choix final se fera dans à peu près un an, si je comprends bien.
Exactement. En plus, au printemps là, 2026, hein, qu'on va savoir laquelle des deux villes sera la gagnante de ce concours.
Du pain et des jeux. Merci à Mathieu Bélanger, notre expert politique. Un gros merci également à Pierre-Luc Bellerose, préfet de la MRC Joliette et maire de Joliette, Suzanne Dauphin, mairesse de Notre-Dame-des-Prairies, Robert Bibeau, maire de Saint-Charles-Borromée. On recevait également Raymond Paquin, président du conseil d'administration de la Société Patrimoine et Histoire Terrebonne, Isabelle Ducharme, à qui on vient de parler, la directrice générale du Sport Québec, notre commentateur politique Pierre Paquette. Un immense merci également à François Morin, Régent Turgeon, Pierre Jubinville, Louis Chevalier, Nicolas Bellemare, Claude Fournel, ici Michel Arnois, qui vous donne rendez-vous demain, même heure, même poste.